Bonjour à chacun. Dans notre série sur Gédéon, nous approchons maintenant de la fin. Enfin, peut-être. Le combat si long à venir entre Israël et Madian pour amener la délivrance promise par Dieu a bien eu lieu, comme nous l'avons vu dimanche dernier. Mais en fait, il a commencé, mais il n'est pas encore terminé. D'où le titre du message de ce matin, « Le combat et la victoire, deuxième partie ». L'attaque initiale a eu lieu de nuit, semant la panique générale dans le camp des Madianites et les amenant à s'entretuer massivement. Cependant, un certain nombre de Madianites a réussi à prendre la fuite et nous avons vu la dernière fois comment Gédéon s'est lancé à la poursuite de ces Madianites rescapés en faisant appel, entre autres, à la tribu d'Éphraïm. La tribu d'Éphraïm avec laquelle Gédéon va finir par avoir une violente querelle, dit le texte, qu'il a su calmer avec beaucoup de sagesse. Mais le combat n'est donc pas encore terminé. La délivrance n'est pas encore entièrement acquise. Il reste des Madianites en vie qui risquent de revenir tôt ou tard pour se venger ou alors pour reprendre leur raid destructeur. C'est pourquoi Gédéon continue sa poursuite au-delà du Jourdain. Et c'est ce que nous allons considérer ce matin avec la lecture d'un premier passage dans le chapitre 8 du livre des Juges. Nous allons tout d'abord lire les versets 4 à 8 qui nous introduira dans notre premier point, la contestation de Soukhot et Pénuel. Juges 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain. Et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Ils étaient épuisés, mais ils continuaient leur poursuite. Il dit aux gens de Soukhot, « Donnez, je vous prie, des pains ronds aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés. Je suis à la poursuite de Zéba et de Tsalmouna, les rois de Madian. » Les chefs de Soukhot répondirent, « Zéba et Tsalmouna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Alors Gédéon dit, « Eh bien, lorsque le Seigneur m'aura livré Zéba et Tsalmouna, je vous châtierai avec des épines du désert et avec des ronces. » De là, il monta à Pénuel et fit aux gens de Pénuel la même demande. Les gens de Pénuel lui répondirent comme avaient répondu les gens de Soukhot. Alors il dit aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai victorieux, je démolirai cette tour. » Depuis combien de temps Gédéon et ses hommes sont-ils à la poursuite des Madianites ? Le texte ne le précise pas. Mais ça fait forcément plusieurs jours. Plusieurs jours avec beaucoup de kilomètres parcourus. Plusieurs jours avec peu de repos, peu de nourriture. Plusieurs jours, avec beaucoup de fatigue, dit le texte. Au verset 4, ils étaient épuisés, mais ils continuaient leur poursuite. Gédéon et ses hommes sont en mission. Ce n'est pas encore l'heure du repos. Pour l'heure, il faut continuer d'avancer. Il serait même bien de trouver pour l'heure un peu de nourriture. Et c'est ainsi que Gédéon arrive à la ville de Soukhot et demande à ses habitants ce sont des Israélites de la tribu de Gad qui est de l'autre côté du Jourdain. Et il demande donc à ses frères du pain pour reprendre des forces et pour pouvoir continuer la traque des Madianites, en particulier de leur roi Zéba et Tsalmouna. Certainement que Gédéon comptait être accueilli en libérateur et soutenu comme tel par ces Juifs de Transjordanie. Verset 5, il dit aux gens de Soukhot, « Donnez, je vous prie, des pains ronds aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont épuisés. Je suis à la poursuite de Zéba et de Tsalmouna, les rois de Madian. » Voilà une occasion rêvée pour cette tribu qui n'a pas pris part au combat de prendre part à la victoire. Certes, ce n'est que de la nourriture qui est demandée, mais sans nourriture, pas de force, et sans force, pas de poursuite, pas de combat, pas de victoire. Pourtant, à la surprise de Gédéon, les habitants de Soukhot refusent de les aider. Avec cette question, Zéba et Tsalmouna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? Pourquoi ce refus? La raison du texte donnée par le texte est celle de la crainte, une crainte que l'on peut comprendre. Ils connaissent les Madianites, ils connaissent leur force, leur puissance dévastatrice. Leur nombre, ils les voient sans doute depuis des années déferler sur leur récolte et puis passer de l'autre côté du Jourdain pour faire de même. Ils craignent à l'évidence des représailles, pour lesquelles, il faut bien le constater, ils seraient en première ligne de l'autre côté du Jourdain. C'est vrai que les forces de Madian ont été considérablement réduites. Il ne reste que 15 000 hommes sur les 135 000 du départ. Mais est-ce que les gens de Soukhot le savent? Ce n'est pas sûr. Par contre, ce qu'ils voient là devant leurs yeux, ce sont 300 hommes épuisés avec Gédéon. Pas vraiment de quoi les rassurer. Pour eux, à l'évidence, il est hors de question de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pour l'heure, Zéba et Tsalmouna n'ont pas été capturés, ils ne donneront pas de pain à Gédéon et à ses hommes. Comment Gédéon réagit-il à ce refus? Il promet de revenir pour les châtier avec des chardons et des épines du désert. Et lorsque le Seigneur m'aura livré Zéba et Tsalmouna, je vous châtierai avec des épines du désert et avec des ronces. Mais l'heure étant à la poursuite des Madianites, Gédéon va passer son chemin et il va arriver à la ville suivante, la ville de Penuel. Penuel, où il réitère la demande de nourriture. Mais comme les gens de Soukhot, ceux de Penuel refusent de donner du pain à Gédéon et à ses hommes. Comment Gédéon réagit-il à ce nouveau refus? Il promet là aussi de revenir après la victoire pour les châtier, cette fois-ci, dit-il, en détruisant leur tour. Versets 8 et 9, « Quand je reviendrai victorieux, je démolirai cette tour. » Avant de parler de ces châtiments promis par Gédéon et des nombreuses questions qu'il soulève, revenons aux Madianites et à ce qu'en dit le texte avec une incise de trois versets, les versets 10 à 12, que je vous propose de lire maintenant. Et nous commençons ici le deuxième point. Décidément, je crois qu'on va investir dans une autre télécommande. La défaite finale des Madianites. Je lis donc les versets 10 à 12. Zeba et Tsalmouna étaient à Kharkor avec leurs troupes, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de toute la troupe des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée étaient tombés. Gédéon monta par le chemin de ceux qui demeurent sous les tentes, à l'est de Noba et de Yogboa, et il bâtit la troupe qui se croyait en sécurité. Zeba et Tsalmouna prirent la fuite, Gédéon les poursuivit. Il captura les deux rois de Madian, Zeba et Tsalmouna, et mit en déroute toutes les troupes. Malgré les réponses négatives de Soukhot et de Penuel, malgré la fatigue et la faim qui les tenaillent, Gédéon et ses hommes se sont remis en route et ils parviennent à proximité du camp des Madianites. Un camp où les Madianites se croient en sécurité. Ils ont parcouru à peu près 200 kilomètres grâce à leurs chameaux, rapidement, et sans doute qu'ils n'imaginaient pas que Gédéon allait les poursuivre jusque-là, et surtout qu'il allait le faire aussi rapidement. Un camp que Gédéon va prendre à rebours. C'est ce que nous comprenons au verset 11. Gédéon monta par le chemin de ceux qui demeurent sous les tentes, à l'est de Noba et de Yogboa, il bâtit la troupe qui se croyait en sécurité. Il faut se replacer la géographie en tête. Gédéon arrive par l'est, mais il passe par le chemin qui vient de l'est et il les prend à rebours. Ils contournent donc le camp, font sur les Madianites. Ils ne sont pas préparés au combat puisqu'ils se croient en sécurité. Et la surprise est à nouveau totale. Malgré la fuite des deux rois, Gédéon finit par les capturer. Et c'est ainsi que se termine le combat à proprement parler. La mission est entièrement terminée. Israël a été délivré des Madianites. Madian ne sera plus jamais un souci pour Israël, et on peut noter qu'il ne sera plus question de Madian dans l'Écriture, si ce n'est pour évoquer cette défaite qui va devenir emblématique pour Israël. J'aimerais, avant de revenir à la question des châtiments qui sont promis à Soukhot et Penuel, souligner maintenant deux leçons. Deux applications pour notre vie spirituelle et en particulier pour notre service pour le Seigneur. Et premièrement, j'aimerais souligner que servir Dieu demande de la persévérance. Pour Gédéon, tout ne s'est pas fait en une fois, lors de la première attaque. Il a fallu se lancer à la poursuite des fuyards. Il a fallu parcourir de nombreux kilomètres. Il a fallu se priver de nourriture, capturer les deux princes, apaiser les Éphraïmites, traverser le Jourdain pour aller finir le travail, capturer les deux rois, et j'en passe. Il a fallu persévérer. Servir Dieu demande de la persévérance. Gédéon aurait pu se contenter de ce qu'il avait déjà accompli lors du premier combat. Après tout, l'extermination à près de 90% des Madianites aurait pu suffire. Beaucoup s'en seraient contentés. Mais Gédéon a persévéré jusqu'au bout de sa mission. Et il a considéré que les 10% restants méritaient qu'il fasse des efforts, qu'il persévère. Et c'est la première leçon de notre texte. Cela nous rappelle que servir le Seigneur, c'est une entreprise de longue haleine. C'est l'affaire de toute la vie. Quand nous acceptons le Seigneur Jésus comme Sauveur et comme Seigneur, nous sommes non seulement adoptés dans la famille de Dieu, mais nous sommes engagés à son service. Servir le Seigneur, et suivre le Seigneur vont de pair. On ne peut pas les dissocier. Et à ce sujet, Jésus dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. » Vous pouvez le prendre dans l'autre ordre. « Si quelqu'un me suit, qu'il me sert, qu'il me serve. » Et ce service, quel qu'il soit, est pour toute la vie, pour toute la vie nouvelle que nous avons reçue en Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire que nous devons toujours faire la même chose, bien évidemment. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons jamais changer de service. Cela veut simplement dire qu'il faut que nous restions dans un esprit de service, que nous persévérions dans cet esprit de service, que nous allions, quand c'est possible, jusqu'au bout de nos engagements. La deuxième leçon s'articule ainsi. Servir Dieu demande de rester focalisé sur l'essentiel. Gédéon a eu plusieurs occasions de passer à autre chose avant d'avoir fini la mission que Dieu lui avait confiée. Il aurait pu s'égarer dans les querelles avec Éphraïm. Il aurait pu se disperser et renoncer devant le refus de Soukhot, puis de Pénuel. Mais il est resté focalisé sur sa mission, sur la mission que Dieu lui avait confiée. Il ne s'est pas laissé distraire de cette mission. Très souvent, ce n'est pas commencer quelque chose pour le Seigneur qui est vraiment difficile. La difficulté, souvent, c'est de l'achever. Parce que très souvent, au début d'un service, nous sommes portés par l'élan de la nouveauté, l'excitation des commencements. Et ça va tout seul. Et puis le temps passe. Certains arrêtent. D'autres se laissent distraire, happés par d'autres choses. Et c'est d'une certaine façon vraiment là que commence le défi du service. Le défi de tenir bon en restant focalisé sur l'objectif à atteindre, la mission à accomplir, malgré les obstacles, malgré les frustrations, malgré les découragements, malgré la fatigue et tout le reste. Bien sûr, il faut savoir parfois renoncer, reconnaître que l'on s'est trompé, discerner qu'il est temps de passer à autre chose. Mais dans la très grande majorité des cas, il faut juste s'accrocher, patienter, persévérer. Même quand Éphraïm conteste, même quand Soukhot et Pénuel ne veulent pas nous aider. En fait, pour rester focalisé et servir dans la durée, il faut être prêt à faire des efforts. La mission que Dieu a confiée à Gédéon ne s'est pas faite tout seul. Il a fallu qu'il passe par-dessus ses craintes. Il a fallu qu'il prenne des risques en s'opposant à l'idolâtrie, et celle de son père en particulier. Il a fallu accepter la tactique de Dieu complètement improbable. Il a fallu passer à l'attaque en n'ayant à sa disposition qu'une poignée d'hommes, puis poursuivre les fuyards, puis prendre sur lui au moment d'Éphraïm, continuer malgré la fatigue, malgré la faim, etc., etc. Il a fallu faire des efforts, de grands efforts. Et très souvent, les efforts pour continuer, pour persévérer, sont plus exigeants, comme nous l'avons souligné, que ceux que nous devons fournir au départ pour commencer. Il est assez facile de s'enflammer. Il est plus difficile de continuer à brûler quand souffle le vent des difficultés, des reproches, de l'opposition, de la solitude, de la frustration, de la fatigue, des relais qui ne sont pas pris, des prières qui ne sont pas exaucées comme nous l'espérions, des obstacles qu'il faut surmonter, et nous pourrions prolonger cette liste. Croire que si je sers le Seigneur fidèlement, alors tout va se faire facilement, sans effort, c'est une vision romantique du service pour Dieu qui ne correspond pas à la réalité. Et c'est une vision que nous devons écarter. Servir le Seigneur n'est pas toujours, ça peut l'être aussi parfois, mais n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Heureusement, il y a des joies, beaucoup de joies au service du Seigneur. Mais il y a aussi des épreuves à endurer, des souffrances à supporter, des renoncements à accepter, une croix à porter. Et le Nouveau Testament a beaucoup, beaucoup de choses à dire à ce sujet, l'apôtre Paul en particulier. Mais ce n'est pas vraiment le sujet maintenant et il faut que nous avancions. Et donc, je vais passer au point suivant. Que le Seigneur, en tout cas, nous renouvelle chacun dans notre service, dans notre engagement, afin que nous puissions non seulement persévérer, mais persévérer de la bonne manière. Revenons donc à ce jugement, ce châtiment de Soukhot et Pénuel, ces deux villes. C'est notre troisième point, troisième et dernier point. Après la capture des deux rois, Zelba et Tsalmouna, Gédéon revient sur ses pas et met à exécution les deux jugements ou châtiments qu'il avait annoncés. Et nous allons lire les versets 13 à 17. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme de Soukhot et l'interrogea. Celui-ci lui écrivit les noms des chefs et des anciens de Soukhot, 77 hommes. Puis il vint trouver les gens de Soukhot et dit : Voici Zelba, Zeba et Tsalmouna. Au sujet desquels vous m'avez outragé en disant « Zeba et Tsalmouna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes épuisés ?» Alors il prit les anciens de la ville ainsi que des épines du désert et des ronces pour corriger les gens de Soukhot. Il démolit aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Gédéon revient donc sur ses pas et met à exécution les châtiments annoncés. En fait, il le fait, comme il l'a dit, uniquement pour Soukhot. Mais pour Pénuel, il va bien au-delà de ce qu'il avait dit, puisqu'il ne se contente pas de détruire la tour, mais il extermine tous les habitants de la ville. Plusieurs questions se posent ici. Le jugement de ces villes était-il vraiment justifié? Gédéon était-il dans son rôle ou pas? Le châtiment était-il proportionné à la faute commise? Pourquoi une différence de traitement entre Soukhot et Pénuel? Une des compréhensions possibles est de dire que Gédéon agit ici en tant que juge et qu'il est normal qu'un juge exerce la justice. Oui, mais encore faut-il dans notre cas que cette justice vienne de Dieu, soit divine, et que Gédéon ait été mandaté par Dieu pour agir ainsi. Et puis, qu'en est-il du lien entre le châtiment et l'offense? Est-il justifié? Est-il proportionné? Si c'est le cas, comment expliquer la mise à mort des habitants de Pénuel alors que ceux de Soukhot sont épargnés? Était-il nécessaire d'aller jusque-là avec Pénuel? Certains vont tenter une explication en disant que le rejet de Gédéon, c'était en réalité le rejet de Dieu, le rejet de sa volonté. C'est possible. En se moquant de Gédéon, c'est de Dieu que ces villes se seraient moquées. D'autres diront que la mission confiée à Gédéon par Dieu, c'était la délivrance d'Israël, pas la justice. Pourquoi délivrer Israël de la main des Madianites si c'est pour faire périr par son épée les habitants, ses frères israélites à Pénuel? S'il est possible de comprendre que Gédéon est dans son bon droit, s'il est possible de comprendre qu'il exerce son devoir parce que Dieu l'a mandaté pour agir ainsi, il est aussi possible de comprendre que la punition des deux villes est en réalité plus de l'ordre de la vendetta personnelle que de la justice divine. Gédéon, après avoir bien agi avec Éphraïm, aurait ici mal agi avec Soukhot et Pénuel, peut-être à cause de la fatigue, peut-être à cause de l'orgueil. Bien faire une fois n'est pas la garantie de bien faire toujours. D'ailleurs, certains voient ici le début d'une certaine dérive, de la décadence qui va caractériser la fin de la vie de Gédéon. Un triste constat que nous ferons la prochaine fois. Un triste constat qui nous rappelle qu'au service du Seigneur, il est au moins aussi important de bien terminer que de bien commencer. Nous avons déjà souligné l'importance de persévérer, d'aller jusqu'au bout. Nous pouvons ajouter ici l'importance de non seulement terminer ce que nous avons entrepris, mais aussi et surtout de le faire de la bonne manière. Combien de chrétiens, de serviteurs de Dieu, après avoir bien commencé, après avoir fidèlement servi pendant de longues années, ont mal terminé, ont défait parfois en peu de temps, à la fin de leur vie, les bonnes choses qu'ils avaient construites pendant des décennies. Bien sûr, il ne nous appartient pas de les juger. Mais que l'on ait raison ou pas de comprendre négativement les châtiments infligés par Gédéon à Soukhot et Pénuel, la réalité demeure. Il faut veiller à bien finir ce que nous entreprenons pour le Seigneur. Attention aussi à ne pas penser et finir par croire que notre engagement, notre service pour le Seigneur nous donne certains droits. C'est parfois le travers dans lequel tombent celles et ceux qui sont en responsabilité. Quand ils finissent par penser que leur service, leur consécration, leur fidélité, leurs accomplissements leur donnent des droits, en particulier sur les autres, et aussi des mérites devant le Seigneur. Chers frères et sœurs, une telle attitude est complètement à l'opposé de l'esprit de service que Dieu nous demande. Souvenons-nous de ce que Jésus dit du service et du serviteur dans la parabole dite du serviteur inutile. Ah, elle nous bouscule celle-là. Et il dit que quand nous avons fait tout ce que Dieu nous demande, nous n'avons fait que notre devoir. Nous n'avons fait rien de plus que ce qui est attendu de nous. Nous sommes des serviteurs sans mérite particulier. Luc chapitre 17, verset 10, « Il en est de même pour vous, quand vous aurez fait tout ce qui est commandé, dites, nous ne sommes que des serviteurs sans mérite particulier. » Nous n'avons fait que notre devoir. Cette parabole vise à nous garder à notre place de serviteur, et humble devant Dieu et devant les autres. Que le Seigneur nous renouvelle chacun dans notre service, notre engagement, afin que nous puissions persévérer, le faire de la bonne manière, pour terminer de la bonne façon, à la gloire de Dieu. Dieu qui nous dira alors un jour, c'est à la fin de l'évangile de Matthieu, enfin presque à la fin de l'évangile de Matthieu, dans une autre parabole, « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Amen.